appel envoyé, parlez après le bip.
Ah, est-ce tout, c'est deuxième étage, j'imagine.
Vous pouvez entrer.
Étage 2.
Bonjour.
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 Ça va?
Mais ça te permet de mettre à l'aise.
Merci, je vois qu'il y a chez toi.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde dans les cuisines. Les esprits sont déjà tournés vers le Ramadan qui débute dans quelques jours pour plusieurs millions de musulmans à travers le monde, de l'Indonésie au Golfe, à l'Inde, au Yémen, à l'Afrique. Un mois de jeûne et de prière, l'un des cinq piliers de l'islam. Un mois pour se concentrer sur ce qui nourrit l'âme et l'esprit, la foi, plutôt que le corps, sans l'oublier bien sûr, parce que d'ailleurs il se rappellera à nous ce corps. Au nord comme au sud, dans la chaleur de l'été ou les courtes journées de l'hiver, il y a mêlé l'excitation, l'intensité et la recherche d'un peu de sérénité avant ce jeûne, pour le vivre pleinement en famille et spirituellement. Nous sommes avec notre guide aujourd'hui. Bonjour Aïssé Toumbaï.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous, parce qu'on est chez vous là, on n'est pas
oui.
N'importe où.
Bienvenue.
Merci. Dans le lieu de la maison qui est la cuisine, vous êtes autrice, cuisinière, conteuse, généreuse, toujours, et source de bons conseils. Vous partagez sur votre site un challenge Ramadan, des conseils et des recettes. Alors surtout, vous accompagnez dans la préparation en cuisine pour permettre aux fidèles d'avoir l'esprit apaisé et libre de tout le volet repas, tout le volet organisationnel, quand on travaille, quand on vit dans un pays qui n'est pas forcément au rythme du Ramadan, se préparer parce que, eh bien, un jeûne, ça se prépare. Je voulais savoir, qui dit jeûne dit amorce et rupture, donc avant l'aube et une fois le soleil couché. Donc on a deux repas, le sour et l'iftar. Est-ce que je prononce correctement ?
Et oui, c'est ça.
Je voudrais savoir quels sont ces repas et qu'est-ce qui fait leur différence entre le sour et l'iftar ?
Alors, le sour, nous, on l'appelle khod en wolof au Sénégal. En fait, c'est le repas du matin. Donc, c'est comme un petit déjeuner, mais qui est là pour donner des forces, pour préparer vraiment la longue journée de jeûne. Donc, on est censé prendre quand même un repas qui est là pour nous permettre de tenir. Donc, quelque chose d'assez costaud, mais quand même avec une digestion lente. Parce que si on se fait avoir, on prend quelque chose trop sucré, on a un gros pic, après on a faim. Donc là, on est sur des céréales complètes. Bien, par exemple, au Sénégal, on prend du mil. En France, par exemple, je recommande de prendre souvent si c'est du pain, il faut que ça soit du pain complet. Vraiment quelque chose qui nous permet de tenir, ou alors quelque chose de riche en protéines. Donc le mil, on dit que c'est riche en protéines végétales, donc c'est pas mal aussi.
Est-ce que le yaourt, fondé que vous avez préparé?
Le fondé, voilà, c'est ce que j'ai préparé, c'est le fondé. Donc ça, c'est ce qu'on mange souvent le matin avec du yaourt au Sénégal. Donc il y a la protéine dans le yaourt et dans le fondé, et il y a les céréales complets qui nous permettent de tenir, etc. Sinon, c'est vraiment du salé aussi. Ça peut être des œufs, de l'avocat. Vraiment des protéines, du gras, mais du bon gras, et quelque chose qui nous permette de tenir sur toute la journée.
Il y a aussi la problématique de la soif, parce que tout au long du jeûne, et en fait c'est quelque chose qu'on réalise peu quand on n'a pas l'habitude de jeûner, ou en tout cas quand c'est pas dans cette tradition, comment se prépare-t-on à ne pas boire? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on va privilégier justement?
Oui, alors il faut éviter par exemple des aliments riches en sel qui donnent soif et qui font de la rétention d'eau et après on a envie de boire. On évite le café, ça donne soif aussi.
D'accord. Ah oui.
Ah oui, le café ça donne soif. Donc de l'infusion, on est sur par exemple l'infusion de quinqueliba le matin, qui est bon. D'ailleurs, on l'appelle même la boisson du jeûne pendant le mois de Ramadan. C'est une boisson qu'on recommande beaucoup. Ça désaltère. Voilà, y a
c'est une herbe, le quinqueliba, juste pour...
C'est une plante de la savane. C'est même une plante sauvage, même une plante endémique même. Et en fait, on l'appelle l'arbre pharmacie. Donc, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est présent dans la pharmacopée française. Hein, si vous regardez, c'est utilisé dans beaucoup de médicaments. Donc, voilà, ça a beaucoup de vertus. C'est bon pour... c'est désaltéré, voilà. Il y a beaucoup de nutriments et souvent c'est recommandé pendant le mois de Ramadan. Mais voilà, donc le matin, éviter tout ce qui est trop sucré, trop salé parce qu'on a soif. Se désaltérer, prendre quelque chose vraiment qui nous apporte de l'eau comme une infusion, des céréales complètes pour avoir une digestion lente et des fruits notamment pour avoir des vitamines, voilà.
Et comment on se prépare? Alors, est-ce qu'on va se lever plus tôt? On regarde l'heure de l'aube? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on prépare ça, justement? Et du coup, sa journée, comment est-ce qu'on lance sa journée?
Normalement, le repas du matin, donc le khod de l'osoro, c'est avant le lever du soleil. En fait, le Ramadan, on se base sur le soleil, en fait. Donc, en hiver, on est content parce que, voilà, les journées sont plus courtes, donc on mange. Mais par contre, en été, on était à 22 heures. pour rompre. Et avec la canicule, c'était très dur. C'est là où on voit vraiment la force de, bah, en fait, de ce qu'on a mangé le matin, à quel point on va tenir, en fait. Et ce qui est génial, c'est que l'estomac s'adapte. Je pense que notamment dans tous les types de jeûnes, que ce soit même pas le ramadan, mais on parle de jeûne intermittent et d'autres types de jeûnes, à force, l'estomac s'adapte. Donc le jeûne, c'est vraiment un moyen de dire à l'estomac, bah, en fait, je te laisse te reposer. Et on voit qu'en fait, au début, on a faim, mais après, finalement, c'est tellement zen, on n'a plus du tout faim, on ressent plus ce besoin-là de manger.
On pense bien sûr à tous ceux qui sont dans l'hémisphère sud, chez qui l'été commence. Donc nous ici, on a de la chance parce que pour le coup, c'est des conditions de jeûne qui vont être facilitées par un soleil qui se lève plus tard et qui se couche plus tôt. Mais on est solidaires les uns des autres, mais en tout cas, les principes sont les mêmes. Donc bien s'alimenter le matin, pas trop s'alimenter, mais s'alimenter comme si on allait faire un marathon.
En fait, c'est vraiment nourrir. On dit le ramadan, c'est nourrir l'esprit et nourrir le corps. Là, on prépare notre corps à quelque chose. C'est un choc quand même de se dire, bah, en fait, tu vas pas manger du tout pendant tant de temps. Et le corps, il s'habitue. Et c'est même le corps parfois qui demande, en fait, qui régule par rapport à son besoin, etc. Généralement, dès qu'on prend la date, c'est pour avoir ce petit pic de sucre-là. Et après, on a soif. On voit que le corps, il a besoin de boire plus que de manger. Et c'est le corps qui décide. Mais oui, on se prépare. Et donc, je dis, c'est vraiment de la nutrition. Puisque c'est de l'alimentation, mais c'est vraiment de la nutrition au-delà du fait, voilà, qu'il faut manger, il faut se nourrir. Voilà.
Nutrition et attention. C'est marrant parce que vous avez parlé de la date. Elle vient vite, cette date. La date dont Fatema Al, la chef cuisinière, disait, c'est comme cela qu'on dit bienvenue. Avec des dattes et un verre de lait. Et on dit je t'aime aussi avec des dattes et du lait. J'avais posé la question à Runasso, le chef cuisinier du Refugee Food, et à Farah Keram, la journaliste. Je leur ai dit à qui n'aurait jamais goûté une datte? Comment la décrire? Je vous propose d'écouter.
La date, pour moi, c'est comme les pommes avec du miel. Après, ça représente une autre forme chez nous. Une date, on le considère comme un fruit sacré dans notre alimentation et dans notre humanité en général, parce qu'on sait que la date, c'est au-delà du fruit, c'est un symbole pour nous, venant de la Mauritanie ou des pays ouest-africains, maghrébins, jusqu'au Moyen-Orient ou d'autres pays arabo-musulmans. La date, ça m'a accompagné pendant toute mon enfance. En fait, c'était le seul fruit qu'on pouvait manger gratuitement au Réunion. J'ai grandi dans un milieu très religieux, surtout au Mali. Et on avait des palmiers autour des mosquées, donc on pouvait accéder facilement et gratuitement. Le seul fruit qu'on avait le droit de manger 10 fois par jour. On ramassait une partie pour nos invités, parce qu'à chaque fois, il y a des invités qui venaient pour voir le marabout et le halif. Du coup, s'ils venaient, au premier, ils le donnaient en date pour symbole du bienvenue, avant de commencer le déjeuner ou le dîner. Et il y a une partie, nous, on donnait ça en forme de l'aumône, en forme de don, et le reste, c'était pour les talibés.
Farah Keram.
Eh bien, pour moi aussi, je retrouve, comme Aruna, un goût de miel. Pour moi, il s'agit d'un fruit très riche, une pluralité de textures, de saveurs. Il y a une variété de dattes qui est très répandue, notamment en Algérie, qui s'appelle la Deglet Nour, qui signifie littéralement « doigt de lumière ». Et je trouve que ça correspond très bien à la datte. C'est quelque chose qui nous enveloppe et qui aussi a une symbolique que moi je trouve très forte et qui est une symbolique aussi dans la religion musulmane. La datte, oui, est vraiment associée à quelque chose de réconfortant. Je dirais que c'est un peu un allié. J'ai des souvenirs d'enfance très marqués avec cette datte. Je n'ai jamais mangé beaucoup de dattes, ni même mes parents. Pourtant, j'ai pris conscience récemment qu'il y avait toujours un paquet de dattes dans les placards de la maison. Mais je crois vraiment que la datte a ce côté réconfortant. Et il y a un vieil adage qui est lié au prophète Mahomet qui dit qu'une maison sans datte, c'est une maison où les habitants ont faim. Et je pense que c'est un peu ça. C'est la datte, on la mangeait que ponctuellement, mais elle était toujours là. Et puis c'est quelque chose aussi qu'on ramenait beaucoup de nos voyages, parce que donc au pays, un peu à l'instar du couscous. En fait, on part en Algérie, les valises pleines à craquer de cadeaux pour la famille, et on revient les valises remplies de sacs de couscous et de dattes. Donc en fait, les dattes sont toujours là.
Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez Farah et Aruna?
Oui, c'est ça, en fait, c'est le symbole du ramadan. L'étape de ramadan, bien que garnie, a toujours des dattes. C'est vraiment le fruit qui symbolise le mois de ramadan, le jeûne. Et c'est le premier repas pour couper, pour rompre notre jeûne. Donc c'est assez symbolique. Et comme ils l'ont bien expliqué, il y a cette douceur-là après avoir jeûné. On est fatigué, on n'a presque plus de force. Et là, on mange cette date et tout d'un coup, on a vraiment comme si on a un regain d'énergie. Donc voilà, c'est ce goût de miel en bouche.
C'est ça, c'est cette douceur en fonction des dates en plus. On a vraiment,
oui, on a des dates, c'est vrai, en fonction de... Mais généralement, oui, les dates même séchées, ça garde quand même ce côté doux. Ah.
C'est l'allié du jeûne, la date.
C'est ça, et on rentre encore dans la nutrition. La date est là pour donner ce côté sucré et ce pic de sucre-là qui nous donne de l'énergie. C'est riche en fibres, ça permet de préparer l'estomac à ce qui va arriver, ce repas-là. Et puis, c'est nutritif, donc...
Alors, on a déjà vu le sourd un petit peu, on l'a abordé. Donc oui. Là, on vient de terminer notre journée. On est déjà sur notre première date de rupture pour le phtour. Justement, comment est-ce qu'on l'aborde? Donc, d'abord la date, d'abord un apport en sucre pour se régénérer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va...
On s'hydrate. Dans la culture musulmane, enfin dans la sunna, on disait que le prophète, il prenait une date et après de l'eau. Donc c'est de manière
générale pour se purifier. Il est dit la date et si vous n'avez pas de date, vous prenez de l'eau pour purifier.
Voilà. Et donc c'est d'abord la date pour ce pic de sucre, d'énergie. Après on s'hydrate parce que le corps a besoin d'eau. Donc généralement pour s'hydrater, on a quoi sur une table de Ramadan? On a souvent soit de l'infusion, encore une fois, ou des soupes. Donc la soupe, ça permet d'avoir les vitamines, de nourrir le corps, d'avoir l'eau. On a ce regain d'énergie grâce à ça. Parce que Sénégal, nous, par exemple, on n'est pas très souple. Alors nous, le Ramadan, le Ndogou, comme on dit, c'est presque un autre petit... On fait un mini petit déjeuner, un brunch. J'ai jamais compris pourquoi. Et on a souvent sur la table des infusions, donc plein d'infusions. Donc soit quinqueliba, soit citronnelle, menthe. Et après, on a des infusions d'hibiscus, soit
en version glacée.
Baobab aussi, bouille, qui est riche en vitamine C, pareil, qui donne encore de l'énergie, et qu'on peut boire soit le matin ou le soir. Donc on a vraiment tous ces fruits-là, qui sont très vitaminés, ou des infusions naturelles, comme j'ai dit, d'hibiscus, très désaltérants aussi. Et on a des tartinades, on aime trop les tartinades. Donc on va avoir des bouts de pain ou des galettes de mil, et on va avoir du thon, voilà, à tartiner comme ici.
Vous dites voilà, parce qu'en fait, vous nous avez préparé tout ça.
C'est ça. Cuisiner avec des oignons, on peut avoir des œufs préparés, on peut avoir ce qu'on appelle du nambé, c'est des haricots cornis qu'on a cuisinés. Parfois, même si on veut, il y en a qui mettent de la charcuterie. Mais de plus en plus, avec la mondialisation, culture maghrébine, on va retrouver de la soupe harira. Sinon, nous, vraiment, la soupe du Sénégal, c'est un bouillon de viande ou des légumes, des morceaux de viande, comme un peu le pot-au-feu, mais en plus léger. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va retrouver généralement, même le matin, avec le fondé ou le lard ou le tchakri, même, il y en a qui prennent ça. Et un verre de lait, les dates obligatoirement. Après, ça dépend des cultures aussi pour le reste, les repas. Comme je disais, nous, au Sénégal, on est très infusion, décoction, plus petite tartinade. Et après, on enchaîne avec un repas qui est soit un yassa ou...
C'est un vrai repas.
C'est un vrai repas. Et généralement, le premier jour de Ramadan, presque dans tous les foyers, c'est du tchéboudjane. Je ne sais pas pourquoi.
les foyers sénégalais, alors.
Foyers sénégalais, voilà. C'est du tchéboudjane. On peut taper à n'importe quelle maison. On sait que le premier jour de Ramadan, c'est...
Ça y est, on est à la maison.
Voilà, c'est pour dire, en fait, c'est le... Voilà, on dit bienvenue au Ramadan et c'est la fête, donc on met un tchéboudjane. Mais oui, c'est généralement ça.
Alors, j'aime bien que vous souriez, que vous parliez de tchéboudienne, parce qu'il y a cette notion très joyeuse, en fait, qui entoure. C'est pas le jeûne, c'est une épreuve pour le corps, momentanée et choisie. Et du coup, c'est intéressant aussi de le rappeler que c'est joyeux, en fait, et c'est un moment familial.
Oui, c'est pas vraiment comme une épreuve. C'est censé être un mois de restriction, mais déjà, on démarre le jeûne avec une intention. Donc ça, c'est vraiment symbolique. On va se priver une certaine heure de nourriture pour pouvoir peut-être penser à l'essentiel généralement. Et c'est même pas dans la culture musulmane, dans toutes les cultures, il y a cette notion de jeûne, de se priver de nourriture qui peut-être nous distrait parce qu'on est devant de la nourriture, une gourmande comme moi, on pense qu'à manger. Mais quand on enlève ce côté-là distrayant, mais qu'est-ce qui nous reste en fait? C'est écouter son corps, les besoins de son corps, c'est curatif. Même notre odorat, quand on jeûne, est développé, c'est fou, hein. On sent des choses qu'on ne sentait pas, c'est vraiment, Ça, et comme j'ai dit, c'est n'importe quel type de jeûne, que ce soit jeûne intermittent, jeûne curatif, etc. C'est le jeûne en tant que tel qui est vraiment bon pour le corps.
Ashi dunia da baba garashi dunia da bada Ashi dunia da hira garashi Ndigaramani nanduru nyamma falamani Ndigaramani ayukul kallamboga falamani Ndigaramani nigoye imma falamani Nyagarashi kacha asi garashi kacha Gaga garashi kacha wala bere garashi kacha alabada Aira garati darbai kanda buni jundura ishilayimu Aira garati sabu bashalayirangu kalamafiri
Gara des Sangoy Blues, un titre de la playlist de RFI. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde chez et avec Aistoumbaï, cuisinière, autrice, amie. Elle donne les clés pour vivre pleinement le ramadan, en famille et sereinement, en ayant géré et anticipé le volet cuisine, soufour et ftour.
C'est ça.
Voilà, comme ça on est bien. Alors pour l'instant, on vient de manger un bon tiéboudienne. On s'est régalé.
C'est la fin, ça.
J'avais une question concernant le sucre. Je sais que depuis que je vous connais, et c'est tout, vous faites très attention à cet apport de sucre et à comment gérer son sucre en période de jeûne. Parce que souvent, on a l'impression que son corps a besoin de sucre, qu'on va se jeter un petit peu sur les éléments sucrés, et vous, vous avez plutôt tendance à dire que ce n'est pas forcément une bonne idée.
Non, ce n'est pas une bonne idée. Déjà, la date est là pour apporter ce sucre-là, pour en prendre, comme a dit Arona, à volonté. Bon, attention. D'ailleurs, même la Sunna recommande d'en prendre par chiffre impair.
Donc, on dit 7, un, je crois même.
1 jusqu'à 7, voilà. Et si on veut vraiment du sucre, je recommande d'utiliser le sucre naturel, donc des fruits. Un smoothie, par exemple, des fruits mixés avec du lait ou de l'eau, etc. Des fruits découpés comme là, j'ai donné de la mangue. C'est fort en sucre, donc vraiment, si on veut vraiment ce côté sucré, privilégier les fruits. Les boissons, infusions, maison, c'est bien, mais il faut faire attention au sucre. On se fait avoir, par exemple, avec le jus de bissap, on a tendance à mettre trop de sucre. On est content, on dit que c'est de l'infusion naturelle, oui, mais si on a mis des tonnes de sucre, ça ne sert plus vraiment à rien, alors que c'est tellement nutritif de base, donc il faut essayer d'aller sur quelque chose, d'aller sur vraiment de l'infusion. Mm-hmm. Par exemple, le bissap, je recommande de ne pas le faire bouillir, de faire infuser les feuilles. Donc, c'est plus léger. Donc, on a tendance à moins sucrer. Et de rajouter de la mangue, ça donne cette sensation de c'est sucré. Donc, on a tendance à moins sucrer que, par exemple, si on ne met pas de la mangue, on sent vraiment que...
On trompe un peu son esprit, on lui fait...
Exactement. Et avec des glaçons, pareil, ça passe plus. On a l'impression que c'est sucré. Donc, il faut vraiment essayer de réduire le sucre pour éviter les excès. Parce que pendant un mois, chaque jour, on se fait un... bon verre de bissap sucré, il y en a qui rajoutent des desserts, des gâteaux, etc.
Il faut faire attention un petit
voilà,
peu.
Voilà, il pas... faut faire attention.
Justement, les gâteaux, j'allais y venir. Certaines cultures vont préparer des gâteaux pour justement pour rompre le jeûne, pour accompagner la rupture. En Afrique de l'Ouest, on va faire des gâteaux ou...
Oui, on fait beaucoup de beignets. Pas du tout de pâtisserie, mais surtout vraiment des beignets. Mais ouais, les beignets, d'ailleurs les pastels, ouais. C'est considéré un peu comme des beignets salés. Donc, on va avoir des fritures. Moi, je recommande de ne pas en avoir beaucoup. Et soit, si on fait de la friture, alors dans ce cas, d'aller sur de la soupe au repas. Donc, faire pastel plus soupe, ça cale bien. surtout, et de bien garnir vraiment de la viande, et après on accompagne ça de soupe.
Avec
et
là, un bon low cost, donc on va avoir bien les saveurs.
Exactement, c'est ça.
D'ailleurs, les pastels, on va le mettre dans la grande catégorie des pains, des tourtes,
des chaussons, des salés.
Ça, on va faire beaucoup de pain pour tremper dans la soupe, pour ramasser bah, sur les tartinades.
Oui, alors beaucoup de pain. Alors le pain, on le retrouve, je pense qu'en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, de l'Ouest, pendant le ramadan, on voit beaucoup de pain. Que ce soit du pain traditionnel, que ce soit du pain classique type baguette, il y en aura toujours soit pour tremper, en effet, dans la soupe, soit pour tartiner les thon, les namé, etc. Donc, ça fait partie aussi des alliés de la table pendant le mois de ramadan.
La diversification, avoir plusieurs petites choses, est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, oui, parce qu'en fait, c'est censé être un moment de convivialité. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve le soir pour se désaltérer, pour se nourrir. Et en fait, on se dit pas, on sait pas ce que chacun aime, et le but, c'est que ça soit vraiment convivial. Donc, on met un peu de tout et les gens peuvent se servir en faisant ce qu'ils veulent. Bon, généralement, on fait ça quand on a des invités, ou alors on sait que, par exemple, telle personne n'aime pas, dans la famille, on lui prépare. C'est vraiment un mois de soin aussi, où on pense à l'autre. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses sur la table de ramadan. On essaie de penser aux individus. Telle personne aime ça, bah, je vais mettre ça sur la table, et chacun peut piocher. Donc, il y a ce côté vraiment très convivial. C'est vraiment un mois de convivialité. D'ailleurs, dans la Sunna, on dit que si tu nourris quelqu'un qui a jeûné, tu as aussi la récompense de cette personne-là. Donc, c'est pour ça que souvent, on voit pendant tout le monde veut nourrir tout le monde. Parce qu'on dit, allez, je veux avoir moi aussi. Mais c'est surtout, voilà, le soin de son corps, de son esprit, mais aussi de l'autre. On pense à l'autre. Je pense qu'avoir plein de choses sur... c'est une petite attention en plus.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
D'où l'importance de préparer. Parce que à l'origine aussi de cette émission, c'est que vous proposez alors un challenge. Le challenge, c'est un peu le défi, mais c'est aussi sur une période donnée. On vous accompagne, on vous donne les trucs et les astuces pour arriver à bien vous organiser. Parce que c'est sûr que quand le ramadan commence et qu'on n'a pas fait ses courses, qu'on ne s'est pas organisé, du coup, ça va être la course et tout ce qui est la sérénité d'avoir une table prête ou facilement prête, ça va être un peu gâché ou rendu plus complexe. Qu'est-ce qu'on fait? L'étape 1, c'est quoi d'abord? On regarde ce qu'on a dans ses placards. Comment ça marche?
Oui, c'est ça. C'est s'organiser pour pouvoir préparer ce qu'on a envie de préparer, parce qu'on a envie de faire plaisir à sa famille. Donc, on est un peu frustré qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut. Et aussi, pour ce temps-là de cuisine, passer ça à autre chose, parce qu'on est fatigué. Aussi, on a envie de se recueillir, de faire de la méditation, de faire autre chose que juste être tout le temps en cuisine. Donc, ce que je recommande, moi, c'est par exemple, première étape, c'est de faire son inventaire avant le ramadan. Regarder dans les placards ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. C'est hyper important parce qu'on a tendance à acheter trop pendant le mois de ramadan. C'est vraiment, là, bientôt, tous les supermarchés vont faire des promos ramadan, etc. Et pour ne pas se faire avoir, il faut savoir qu'est-ce qu'on a et de quoi on a besoin.
Et c'est contre-intuitif en plus, parce que c'est pas du tout.
Mais oui, c'est pas le moment du gaspillage. Mais oui, chaque année on le rappelle, on dit éviter le gaspillage, etc. Éviter de surconsommer, suracheter, surcuisiner. Mais en fait, on se fait avoir. Il y a tellement de promos, c'est alléchant. En plus, on a envie de tester toutes les recettes. Et puis, on suit des personnes comme moi qui partagent tout le temps des recettes. On a envie de tout essayer. Mais en fait, il faut vraiment se poser, se dire en fait, c'est un mois où on a des restrictions, on repense à l'essentiel. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai envie de tout dépenser comme ça? Et surtout, est-ce qu'on en a besoin? Donc, on se pose, on regarde ses placards. Et c'est marrant parce que les gens du challenge m'ont dit, mais en fait, j'ai découvert des choses dans mon placard. Parce que c'est vrai, on fait les courses, on les range. Et en fait, on cuisine les mêmes choses. Il y a, au fond du placard, parfois, on oublie des choses qu'on a achetées à Mathusalem. Donc voilà, que ce soit le congélateur, parce que ça aussi part.
Oui, quand on a un congélateur, c'est une vraie aide, parce qu'on peut préparer en amont, stocker et ensuite sortir au fur et à mesure.
Donc oui, faites l'inventaire, notez tout ce que vous avez et regardez maintenant ce qui vous manque pour faire... voilà. Et moi, je recommande de faire deux types de courses pour bien s'organiser, éviter d'aller tout le temps au supermarché, etc. Donc une grosse course pour tout ce qui est denrées non périssables, donc les sacs de riz, comme vous avez pu voir là. Ouais. Un gros sac de riz pour ceux qui mangent du riz, couscous, lentilles, pois chiches, haricots, tout ce qui est vraiment denrées non périssables. Et si vous avez un congélateur, vous pouvez même acheter de la viande et commencer à les stocker. Donc de la viande marinée. D'ailleurs, j'explique plusieurs types de marinades qu'on peut faire. mettre dans des sacs de congélation, écrire la marinade, parce qu'après, tout se ressemble, on ne sait plus ce qu'on aime, et on congèle. Et pendant le mois de Ramadan, on a juste à sortir, et puis voilà. Et l'autre type de course, c'est tout ce qui est denrées périssables. Donc, une fois par semaine, on va au supermarché, on complète ce qu'on n'a pas, etc. Et on n'y va plus, on ne regarde pas les promos.
Oui, c'est ça. Et surtout, on a fait ses menus. En fait, ça c'est
une aide.
Ça,
c'est hyper
important.
Tout le monde
ne le fait pas. Vous êtes très organisé, moi non. Donc, ça aide quand même de faire ses menus en amont.
Oui.
Comme ça, on peut s'organiser encore mieux, j'ai envie de dire.
Moi, je dirais même, faites votre menu avant d'aller faire les courses, parce qu'au moins, on sait ce qu'on achète.
Et quand vous n'avez pas faim.
Et quand on n'a pas faim, surtout ça. Mais quand on a une liste de courses, ça aide déjà, ça aide parce que quand on va et qu'on a faim, ben on achète tout et n'importe quoi. Et souvent, remarquez, quand on a faim, on n'achète que du petit déjeuner, des desserts et des chips ou des choses comme ça, mais pas de la nourriture. On rentre et on se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai acheté? Et en fait, on est dicté par sa faim, ses envies, etc. Donc, un menu, et même si on n'a pas envie de faire un menu pour tout le Ramadan, au moins lister des recettes que vous avez envie de faire pendant le mois de Ramadan, et ça m'évite d'aller tout le temps au supermarché, au marché, d'être fatiguée, parce que c'est aussi fatigant de faire les courses.
C'est du temps.
C'est une heure de queue, c'est du temps, on fait le tour et puis on achète tout, et surtout quand on a faim.
Et comment ça se passe alors quand on a des enfants qui sont dans ses pattes, qui ont envie de manger, pour lesquels on va faire plusieurs repas? Comment est-ce que ça s'organise tout ça?
Oui, alors lui, c'est vrai que au mois de Ramadan, c'est les enfants, il faut penser à eux parce qu'ils ne jeûnent pas. Nous, par exemple, quand on était petits, on disait de tester par demi-journée ou par 2 heures.
Bah, c'est un tri, on a envie de faire comme les grands.
Ouais. C'est ça. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que de prévoir pendant le repas du soir une partie pour les enfants le lendemain. Et sinon, aller sur des repas simplifiés pour les enfants. De toute façon, ils sont contents, les enfants, ils aiment bien les repas rapides, pâtes, bolognaises, voilà, des choses comme ça. Ma mère, elle faisait tout le temps des crêpes, jambon, des choses qu'on aime trop. Elle, ça a été rapide pour elle, nous, on était contents. Mais voilà, c'était ça. Essayer aussi d'alléger la charge mentale, à ne pas se dire, en fait, je veux faire des tonnes de choses. Le repas des enfants en fait partie. Voilà.
Et ça fait des souvenirs aussi, vous l'avez dit, votre maman vous préparait des crêpes au jambon, c'est ça?
Oui, jambon de bœuf. Mais oui, c'était le mois où voilà, c'était des spaghettis, tout ce qu'on aimait en fait, spaghettis, frites, voilà, crêpes, jambon, crêpes au poulet. Elle faisait des choses faciles comme ça et nous, on était contents. Et je pense que oui, c'est un mois aussi où les enfants, même pendant la table de Ramadan, on intègre les enfants. Je me rappelle, chez ma grand-mère, il y avait une petite table que pour les enfants. Et on leur mettait tout ce qu'ils aimaient et ils coupaient, même si je n'ai pas, et ils mangeaient en même temps que nous.
Pour la transmission, c'est bien.
C'est ça, c'est important.
Bon, c'est déjà terminé. Merci beaucoup, Aïstou. Merci infiniment.
Avec plaisir.
De nous avoir accueillis chez vous. On vous retrouve bien sûr sur votre site internet, aïstoucuisine.com.
Oui, c'est
là
ça.
Que vous trouverez d'ailleurs le challenge Ramadan.
Oui.
Et d'autres challenges, parce qu'il y a des défis.
Exactement.
Et des pages spéciales pour les gourmets. Donc, si vous voulez apprendre la cuisine, être accompagné, c'est toute une émulation.
C'est ça, pour s'organiser. Parce que je trouve qu'il y a une grande charge mentale quand même sur le fait de cuisiner, alors que c'est facile et ça doit être tranquille. Le but, c'est que les gens soient sereins.
Absolument. Vous êtes aussi sur les réseaux, bien sûr,
oui.
Instagram, Facebook, TikTok, je ne sais pas.
Je commence là sur TikTok.
Un petit peu,
oui.
Début TikTok alors, donc on vous suivra. Les liens, en tout cas, sont sur la page de l'émission. Merci beaucoup à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. À partager, à écouter en direct ou bien en podcast sur votre plateforme préférée, celle de RFI, c'est Pio Radio, mais ça, vous le savez. Merci de votre écoute. On se retrouve le week-end prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous. Prenez bien soin de vous.